Chapitre 3. Les enchères. La salle où notre Normand et notre Gascon s'entretenaient ainsi paisiblement était située au centre du bâtiment principal. Les fenêtres, tendues de lourdes tapisseries de Flandre, donnaient sur une étroite bande de gazon fermée par un treillage et qui devait s'appeler pompeusement désormais le jardin réservé de Madame la Princesse. À la différence des autres appartements du rez-de-chaussée et du premier étage, déjà envahis par les ouvriers de toutes sortes, rien ici n'avait encore été changé. C'était bien le grand salon d'apparat d'un palais princier, avec son ameublement opulent mais sévère. C'était un salon qui n'avait pas dû servir seulement aux divertissements et aux fêtes, car vis-à-vis de l'immense cheminée de marbre noir, une estrade s'élevait, recouverte d'un tapis de Turquie, et donnait à la pièce tout entière je ne sais quelle physionomie de tribunal. Là, en effet, s'étaient réunis plus d'une fois les illustres membres de la maison de Lorraine, Chevreuse, Joyeuse, Aumale, Elbeuf, Nevers, Mercœur, Mayenne et les Guise, au temps où les hauts barons faisaient encore la destinée du royaume. Il fallait toute la confusion qui régnait aujourd'hui à l'hôtel de Gonzague pour qu'on eût laissé pénétrer nos deux braves dans un lieu pareil. Une fois entrés, par exemple, ils y devaient être plus en repos que partout ailleurs. Le grand salon gardait pour un jour encore son inviolabilité. Une solennelle réunion de famille y devait avoir lieu dans la journée, et le lendemain seulement, les menuisiers faiseurs de cases devaient en prendre possession.
Un mot encore sur la Gardère, dit Coquardas quand le bruit de pas qui avait interrompu leur entretien se fut éloigné. « Quand tu le rencontras en la ville de Bruxelles, était-il seul ?»«
Non, » répondit frère Passepoil.
« Et toi, quand tu le trouvas sur ton chemin à Barcelone ?»«
Il n'était pas seul non plus. »«
Avec qui était-il ?»«
Avec une jeune fille. »«
Belle ?»«
Très belle. »«
C'est singulier. » Il était aussi avec une jeune fille belle, très belle, quand je le vis là-bas en Flandre. Te souviens-tu de sa tournure, de son visage, de son costume ?
Coquardas répondit. Le costume, la tournure, le visage d'une charmante gitana d'Espagne. Et la tienne ?
La tournure modeste, le visage d'un ange, le costume d'une fille noble.
C'est singulier, dit à son tour Coquardas.
« Et quel âge à peu près ?»«
L'âge qu'aurait l'enfant. »«
L'autre aussi. »« Tout n'est pas dit là-dessus, ma caillou. »« Et dans ceux qui attendent leur tour, après nous deux, après monsieur le chevalier de Faenza et monsieur le baron de Saldagne, nous n'avons compté ni monsieur de Pérol, ni le prince Philippe de Gonzague. »
La porte s'ouvrait. Passepoil n'eut que le temps de répondre.
« Qui vivra verra. »
Un domestique en grande livrée entra, suivi de deux ouvriers toiseurs. Il ne regarda même pas, tant il était affairé, du côté de nos gens qui se glissèrent inaperçus dans l'embrasure d'une fenêtre.
« Et vite !» fit le valet. « Tracez la besogne de demain. 4 pieds carrés partout !»
Les deux ouvriers se mirent aussitôt au travail. Pendant que l'un d'eux toisait, l'autre marquait à la craie chaque division de 4 pieds, et y attachait un numéro d'ordre. Le premier numéro attaché fut 927. Puis l'en suivit.
« Que diable font-ils là, mon bon ?»
demanda le Gascon en se penchant hors de son abri.
« Tu ne sais donc rien ?»
repartit Passepoil. « Chacune de ces lignes indique la place d'une cloison, et le numéro 927 prouve qu'il y a déjà près de 1000 cases dans la maison de monsieur de Gonzague. »
Et à quoi servent ces cases ?
À faire de l'or.
Coquardas ouvrit de grands yeux. Frère Passepoil entreprit de lui expliquer le cadeau grandiose que Philippe d'Orléans venait de faire à son ami de cœur.
Comment ? S'écria le Gascon. Chacune de ces boîtes vaudra autant qu'une ferme en Beauce ou en Brie. Ah, mon bon, attachons-nous solidement à ce digne monsieur de Gonzague.
On toisait, on marquait. Le valet disait «
Numéro 935, 936, 937. Vous faites trop bonne mesure, l'homme. Songez que chaque pouce vaut de l'or.
Bénédiction, fit Cocardas. C'est donc bien bon, ces petits papiers.
C'est si bon, répliqua Passepoil, que l'or et l'argent sont sur le point d'être dégommés.
Vil métaux, prononça gravement le Gascon. Ils l'ont bien mérité.
Est-ce pas pur, s'interrompit-il. Je ne sais pas si c'est vieille habitude, mais je conserve un faible pour les pistoles.
Numéro 941, fit le valet. Il reste 2 pieds et demi, dit le toiseur. Fausse coupe.
Ohimé, fit Cocardas. Ce sera pour un homme maigre.
Le valet fut de son avis, car on mit un dernier numéro. Puis il dit.
Vous enverrez les menuisiers tout de suite après l'assemblée.
Assemblée de quoi? Tâchons de le savoir. Quand on est au fait de ce qui se passe dans une maison, la besogne est bien avancée. Cocardas, à cette observation pleine de justesse, caressa le menton de Passepoil comme un père tendre qui sourit à la naissante intelligence de son fils préféré. Le valet et les toiseurs étaient partis. Il se fit tout à coup un grand bruit du côté du vestibule. On entendit un concert de voix qui criaient.
« À moi ! À moi ! J'ai mon inscription ! Pas de passe-droit, s'il vous plaît !»«
À d'autres !» fit le Gascon. « Nous allons voir du nouveau !»«
La paix, pour Dieu ! La paix !» ordonna une voix impérieuse au seuil même de la salle.
« Monsieur de Pérolles, dit frère Passepoil, ne nous montrons pas !»
Ils s'enfoncèrent davantage dans l'embrasure et tirèrent la draperie. Monsieur de Pérolles, en ce moment, franchissait le seuil, suivi, ou plutôt pressé, par une foule compacte de solliciteurs. Solliciteurs d'espèces rares et précieuses, qui demandaient à donner beaucoup d'argent pour un peu de fumée. Monsieur de Pérolles avait un costume d'une richesse extrême. Au milieu du flot de dentelles qui couvrait ses mains fraîches, on voyait les diamants étincelés.
« Voyons, voyons, messieurs !» dit-il en entrant et en s'éventant avec son mouchoir garni de points d'Alençon. « Tenez-vous à distance ! Vous perdez, en vérité, le respect !»«
Ah, loup couquin, est-il superbe ?» soupira Cocardas.
« Il a le fil !» déclara frère Passepoil.
C'était vrai. Ce Pérolles avait le fil. Il se servait, ma foi, de la canne qu'il tenait à la main pour écarter cette cohue d'écus animés. À sa droite et à sa gauche marchaient 2 secrétaires, armés d'énormes carnets.
« Gardez au moins votre dignité »
reprit-il en secouant quelques grains de tabac d'Espagne qui étaient sur la maline de son jabot.
« Se peut-il que la passion du gain ?»
Il fit un geste si beau que nos 2 prévôts, placés comme des dilettanti en loge grillée, eurent envie d'applaudir. Mais les marchands qui étaient là ne se payaient point de cette monnaie.
« À moi » criait-on. « Moi le premier, j'ai mon tour !»
Pérolles se posa et dit.
« Messieurs !»
Aussitôt, le silence se fit.
« Je vous ai demandé un peu plus de calme, » continua Pérolles.
« Je représente ici directement la personne de Monsieur le Prince de Gonzague. Je suis son intendant. Je vois ça et là des têtes couvertes. » Tous les feutres tombèrent.
« À la bonne heure !» reprit Pérolles.
« Voici, messieurs, ce que j'ai à vous dire. »«
Chut, chut, écoutons !» fit la masse.
« Les comptoirs de cette galerie seront construits et livrés demain. »«
Bravo !»
C'est la seule salle qui nous reste, ce sont les dernières places. Tout le surplus est arrêté, sauf les appartements privés de Monseigneur et ceux de Madame la Princesse. Il salua.
Le cœur reprit. « À moi, je suis inscrit ! Palsambleu, je ne me laisserai pas prendre mon tour !»«
Ne me poussez pas, vous !
Allez-vous maltraiter une femme ?»
Car il y avait des femmes, les aïeules de ces dames laides qui, de nos jours, effraye les passants vers 2 heures de relevée aux abords de la bourse.
« Maladroit ! Mal appris ! Malotru !»
Puis des jurons et des glapissements de femmes d'affaires. Le moment était venu de se prendre aux cheveux. Cocardas et Passepoil avançaient la tête pour mieux voir la bagarre, lorsque la porte du fond, située derrière l'estrade, s'ouvrit à deux battants.
« Gonzague !» murmura le Gascon.
« Un homme d'un milliard !» ajouta le Normand.
D'instinct, ils se découvrirent tous deux. Gonzague apparut, en effet, au haut de l'estrade, accompagné de deux jeunes seigneurs. Il était toujours beau, bien qu'il approchât de la cinquantaine. Sa haute taille gardait toute sa riche souplesse. Il n'avait pas une ride au front, et sa chevelure admirable, lourde d'essence, tombait en anneaux brillants comme le jais sur son frac de velours noir tout simple. Son luxe ne ressemblait pas au luxe de Pérole. Son jabot valait 50 000 livres, et il avait pour 1 000 000 de diamants à son collier de l'ordre, dont un petit coin seulement se montrait sous sa veste de satin blanc. Les deux jeunes seigneurs qui le suivaient, Chavernier le Roué, son cousin par les Nevers, et le cadet de Navailles, portaient tous deux poudre et mouche. C'étaient deux charmants jeunes gens, un peu efféminés, un peu fatigués, mais égayés déjà, malgré l'heure matinale, par une petite pointe de champagne, et portant leur soie et leur velours avec une adorable insolence. Le cadet de Navailles avait bien 25 ans. Le marquis de Chaverny allait sur sa 20e année. Ils s'arrêtèrent pour lorgner la cohue et partirent d'un franc éclat de rire.
« Messieurs, messieurs !» fit Pérole en se découvrant. « Un peu de respect au moins pour monsieur le prince !»
La foule, toute prête à en venir aux mains, se calma comme par enchantement. Tous les candidats à la possession des cases s'inclinèrent d'un commun mouvement. Toutes ces dames firent la révérence. Gonzague salua légèrement de la main et passa en disant
« Dépêchez, Pérole, j'ai besoin de cette salle. »«
Oh, les bonnes figures !» disait le petit Chaverny en lorgnant à bout portant.
Navailles riait aux larmes et répétait
« Oh, les bonnes figures !»
Pérole s'était approché de son maître.
« Ils sont chauffés à blanc, » murmura-t-il. « Ils payeront ce qu'on voudra. »«
Mettez aux enchères !» s'écria Chaverny. « Ça va nous amuser !»«
Chut !» fit Gonzague. « Nous ne sommes pas ici à table, maître fou !»
Mais l'idée lui sembla bonne et il ajouta.
« Soit, aux enchères. Combien de mise à prix ?»«
500 livres par mois pour 4 pieds carrés, » répondit Navailles, qui pensait surfaire.
« 1 000 livres pour une semaine !» dit Chaverny.
Mettons 1 500 livres, dit Gonzague. Allez, Pérole.
Messieurs, reprit celui-ci en s'adressant aux postulants, comme ce sont les dernières places, et les meilleures, on les donnera aux plus offrants. Numéro 927, 1 500 livres.
Il y eut un murmure, et pas une voix ne s'éleva.
Pas le sangbleu, cousin, dit Chaverny. Je vais vous donner un coup d'épaule. »
Et s'approchant.
« 2 000 livres » s'écria-t-il.
Les prétendants se regardèrent avec détresse.
« 2 500 !» fit le cadet de Navailles qui se piqua d'honneur.
Les candidats sérieux étaient dans la consternation.
« 3 000 !» cria d'une voix étranglée un gros marchand de laine. « Adjugez !» fit Pérole avec empressement.
Gonzague lui lança un regard terrible. Ce Pérole était un esprit étroit. Il craignait de trouver le bout de la folie humaine.
« Ça va bien, » dit Cocardas.
Passepoil avait les mains jointes. Il écoutait, il regardait.
« Numéro 928, » reprit l'intendant.
« 4 000 livres, » prononça négligemment Gonzague.
« Mais... » objecta une revendeuse à la toilette dont la nièce venait d'épouser un comte au prix de 20 000 louis qu'elle avait gagné rue Quincampoix.
« C'est le pareil !»«
Je le prends !» s'écria un apothicaire.
« J'en donne 4 500 !» surfit un quincailler.
« 5 000 !»«
6 000 !»«
Adjugé !» fit Pérole. « Numéro 929. »
Sur un regard de Gonzague, il ajouta.
« À 10 000 livres !»«
4 pieds carrés !» fit Passepoil éperdu.
Cocardas ajouta gravement.
« Les 2/3 d'une tombe !»
Cependant, l'enchère était lancée. Le vertige venait.
on se disputa le numéro 929 comme une fortune. Et quand Gonzague mit le suivant à 15 000 livres, personne ne s'étonna. Notez qu'on payait comptant, en belles espérances sonnantes ou en billets d'État. L'un des secrétaires de Pérol recevait l'argent. L'autre notait sur son carnet le nom des acheteurs. Chavernier et Navaille ne riaient plus. Ils admiraient. « Incroyable folie !» disait le marquis. « Il faut voir pour croire !» ripostait Navaille. Et Gonzague ajoutait, gardant son sourire railleur. « Ah, messieurs, la France est un beau pays !»« Finissons-en » s'interrompit-il. « Tout le reste à 20 000 livres !»« C'est pour rien !» s'écria le petit Chavernier. « À moi ! À moi ! À moi ! » fit-on dans la cohue. Les hommes se battaient, les femmes tombaient étouffées ou écrasées. Mais elles criaient aussi du fond de leur détresse « À moi ! À moi ! À moi !» Puis des enchères encore, des cris de joie et des cris de rage. L'or ruisselait à flots sur les degrés de l'estrade qui servait de comptoir. C'était plaisir et stupeur que de voir avec quelle allégresse toutes ces poches gonflées se vidaient. Ceux qui avaient obtenu quittance les brandissaient au-dessus de leur tête. Ils s'en allaient, ivres et fous, essayer leur place et se carrer dedans. Les vaincus s'arrachaient les cheveux. « À moi ! À moi ! À moi !» Pérol et ses acolytes ne savaient plus auquel entendre. La frénésie venait. Aux dernières cases, le sang coula sur le parquet. Enfin, le numéro 942, celui qui n'avait que 2 pieds et demi, la fausse coupe, fut adjugé à 28 000 livres. Et Pérol, refermant bruyamment son carnet, dit « Messieurs, l'enchère est close !» Il y eut un moment de grand silence. Les heureux possesseurs des cases se regardèrent, tout abasourdis. « Messieurs, leur dit gravement le marquis de Chavergny, ce n'est pas vendu, c'est donné !» Gonzague appela Pérol. « Il va falloir faire place nette, » dit-il. Mais à ce moment, une autre foule se montra à la porte du vestibule. Foule de courtisans, traitants, gentilshommes, qui venaient rendre leur devoir à monsieur le prince de Gonzague. Ils s'arrêtèrent à la vue de la place occupée. « Entrez, entrez, messieurs !» leur dit Gonzague. « Nous allons renvoyer tout le monde. »« Entrez !» ajouta Chavergny. « Ces bonnes gens vous revendront leurs emplettes, si vous voulez, à 100% de bénéfice. » « Ils auraient tort !» décida Navaille. « Bonjour, gros Auriol !»« C'est ici le pactole !» fit celui-ci en saluant profondément Gonzague. Cet Auriol était un jeune traitant de beaucoup d'espérance. Parmi les autres, on remarquait Albret et Tarane, deux financiers aussi, le baron de Batz, bon allemand qui était venu à Paris pour tâcher de se pervertir, le vicomte de Lafare, Montaubert, Nocé, Gironne, tous roués, tous parents éloignés de Nevers ou chargés de procuration, tous convoqués par Gonzague pour une solennité à laquelle nous assisterons bientôt, l'assemblée dont avait parlé M. de Pérol. « Et cette vente ?» demanda Auriol. « Mal faite, » répondit froidement Gonzague. « Entendu ?» fit Cocardas dans son coin. Passepoil, qui suait à grosses gouttes, répondit. « Il a raison. Ces poules lui auraient donné le restant de leurs plumes. »« Vous, monsieur de Gonzague ?» se récria Auriol. « Une maladresse en affaires ? Impossible !»« Jugez-en. J'ai livré mes dernières cases à 23 000 livres, l'une dans l'autre. »« Pour un an ? Pour 8 jours ?» Les nouveaux venus regardèrent alors les cases et les acheteurs. « 23 000 livres !» répétèrent-ils dans leur ébahissement profond. « Il eût fallu commencer par ce chiffre, » dit Gonzague. « J'avais en main près de 1 000 numéros. C'était une matinée à 23 millions, clair et net. »« Mais c'est donc une rage ?»« Une frénésie. Et nous en verrons bien d'autres. J'ai loué la cour d'abord, puis le jardin, puis le vestibule, les escaliers, les écuries, les communs, les remises. J'en suis aux appartements et, morbleu, j'ai envie d'aller vivre à l'auberge. »« Cousin,
interrompit Chavarny, je te loue ma chambre à coucher au cours du jour.
À mesure que l'espace manque, continuait Gonzague au milieu de ses autres nouveaux, la fièvre chaude augmente. Il ne me reste rien.
Cherche bien, cousin. Donnons à ces messieurs le plaisir d'une petite enchère.
À ce mot enchère, ceux qui n'avaient pu louer se rapprochèrent vivement.
Rien, répéta Gonzague.
Puis se ravisant.
Ah, si fait.
Quoi donc ? S'écria-t-on de toutes parts.
La loge de mon chien.
On éclata de rire dans le groupe des gens de cour. Mais les bonnes gens, les marchands, ne riaient pas. Ils réfléchissaient.
Vous croyez que je raille, messieurs ? S'écria Gonzague.
Je parie que si je veux, on m'en donne 10 000 écus, séance tenante.
30 000 livres ! S'écria-t-on. La loge d'un chien !
Et les rires de redoubler. Mais tout à coup, apparut une étrange figure entre Navaille et Chavarny, qui riait plus fort que tous les autres. Un visage de bossu, aux cheveux drôlement ébouriffés. Une voix grêle et cassée en même temps s'éleva. Le petit bossu disait :
Je prends la loge du chien pour 30 000 livres.